Il faut le progrès, il faut pas la pagaille.
Notre village au fil du temps. Un épisode proposé par François Marceau. Découvrons aujourd'hui la vie de Fontenay au XIXe siècle. Bonjour François. Pour commencer, il serait peut-être bon d'établir le lien à la charnière entre le 18e et le 19e siècle d'un point de vue historique.
Moi, je te dirais rupture. Nous avons la Révolution française, nous avons la fin de la royauté et l'unification du pays. À la fin du 18e siècle, les communes sont nées. Dans beaucoup d'endroits, cela se fait sans difficulté, ça marche. C'est ainsi qu'à Fontenay, c'est le curé Étienne Barthélémy-Louis Barassin, qui devient membre du conseil général de la commune et qui est officier public. C'est donc lui qui tient les registres. Les naissances, mariages et décès remplacent baptême, mariage et sépulture. Le curé a donc juré serment à la constitution civile du clergé. Il signe en tant que tel pour la première fois le 14 janvier 1793. Ensuite, il écrit des actes le 20 Brumaire 1793, date qui n'existe pas évidemment, puisqu'il mélange ainsi le calendrier révolutionnaire et l'actuel calendrier, et l'ancien calendrier d'ailleurs. Ensuite, il a l'air d'avoir compris, il met que nous sommes le 8 Frimaire en 2, et ainsi de suite jusqu'au 19 Fructidor en 5. Nous voyons bien qu'il est difficile à l'époque de s'approprier ce fameux calendrier révolutionnaire. Ce cas n'est pas rare. Il faut aussi dire que les personnes qui savent lire et écrire ne sont pas nombreuses à cette époque. C'est ainsi que beaucoup de curés, ceux qui avaient prêté serment, peuvent continuer à être officiers publics. Nous avons peu d'éléments sur Fontenay pendant la Révolution. Il y a des contre-révolutionnaires dans le Calvados, mais il est quelquefois difficile de les distinguer avec les brigands. Les autorités mélangeant sciemment les brigands et les contre-révolutionnaires pour évidemment discréditer les contre-révolutionnaires. Il apparaît qu'un chouan nommé Nicolas Guillot, qui résidait à Fontenay et qui était surnommé Marche-à-Terre, fut exécuté le 3 Vendémiaire en 7, place Saint-Sauveur à Caen. Sans doute, il était un peu isolé comme contre-révolutionnaire dans la commune, parce qu'en 1793, en avril 1793, la Convention décrète pour la commune de Fontenay-le-Marmion une mention honorable de dévouement patriotique de ses bons citoyens. Ceux-ci s'étaient volontairement rendus à Caen pour soutenir la Révolution suite à des bruits de présence de troupes anglaises. En effet, à cette époque, les Anglais essayaient de faire des incursions par la mer en débarquant vers Honfleur ou toutes les plages de ce secteur. Ensuite, pendant la moitié du XVIIIe siècle, malgré les changements politiques, il y a peu de bouleversements à Fontenay, la population reste stable. Il y avait toujours environ 700 habitants dans la commune.
Quelle est la géographie du village au XIXe siècle? Est-ce que c'est très différent d'aujourd'hui?
Alors, différent d'aujourd'hui, oui, mais différent d'il y a quelques années, non. Puisque si on résume un peu, la commune de 1830 ressemble sans doute beaucoup à la commune de 1920-1930, soit un siècle plus tard. L'habitat est surtout rassemblé, centré sur le bourg, ovale un petit peu. De l'autre côté, vers la route qui mène à Rocancourt, actuellement aux cités Tarot, qui évidemment ne s'appelait pas les cités Tarot, nous avions un peu d'habitat au lieu dit les Bitardières, sans quoi c'est très disséminé. La différence principale réside peut-être que les fermes étaient dans le bourg.
Quelle est la vie quotidienne, typique des fontenaisiennes et des fontenaisiens au XIXe siècle?
Alors, s'il fallait retenir un couple type de nos habitants de Fontenay à cette époque-là, il faut forcément la femme édentelière, le mari est journalier. En 1836, à Fontenay, on avait 136 dentelières, ce qui est énorme, et 52 journaliers. Alors pourquoi cette différence ? C'est très simple. Les filles, à partir de 10 ans, les jeunes filles, étaient également dentelières, elles travaillaient avec leur mère ou leur grand-mère. Ce qui fait qu'évidemment, ça nous fait plein de dentelières et elles travaillaient à domicile. Les hommes, eux, qui étaient journaliers pour la plupart, ils étaient embauchés par la vingtaine de cultivateurs. Ceux-ci étaient propriétaires ou non. Et ainsi, les hommes travaillaient de ferme en ferme ou toujours à la même ferme, mais n'avaient pas eux-mêmes de véritables terres. Ils avaient juste un petit lopin de terre qu'ils pouvaient cultiver pour eux-mêmes.
Peux-tu nous parler, François, des autres professions qui sont exercées dans le village à cette époque du 19e siècle ?
Alors, j'en ai répertorié quelques-unes. Parlons du taupier, parce que le taupier, c'était une figure locale. Il y en avait dans toutes les communes, et depuis très très longtemps. Avant les produits chimiques, évidemment, chaque village comptait au moins un taupier. Celui-ci, il devait piéger les taupes, évidemment. Il était payé à l'hectare, peu, et il avait quand même un droit, c'est qu'il avait le droit de conserver les peaux qu'il pouvait revendre pour faire des fourrures. Notre taupier, il a un nom quand même, fallait l'inventer celui-là. Baptiste le dresseur. Alors je ne sais pas s'il l'est dressé pour les attraper, mais ça, c'est une autre histoire. Il est né à Fontenay en 1780. Il est taupier jusqu'à son décès à Fontenay en 1838. Rien de surprenant, c'est son fils qui prend la relève, Constant, qui est né à Fontenay le 16 Vendémiaire en 13. Il lui succède, il sera taupier au moins jusqu'en 1886 et lui vivait avec sa fille dans une maison dans le village de Fontenay et il semble bien qu'il soit le dernier taupier du village. Le colporteur, pareil, figure bien ancrée au 19e siècle. Alors lui, il n'est pas du pays en général. Le colporteur, il vient des montagnes, notamment de l'Auvergne et de la Savoie. À Fontenay, c'est un Auvergnat, né dans le Puy-de-Dôme en 1796, marié à une Normande, qui s'appelle Gabriel d'Ossolme. Il est colporteur de 1830 à 1860. Contrairement à ses collègues, il reste à Fontenay et il fonde une famille. Parce que la plupart du temps, les colporteurs retournaient par période dans leur montagne natale.
Qu'est-ce qu'il colporte, le colporteur ?
Il ne colporte pas des ragots, le colporteur. Non, non, non. Le colporteur, lui, il avait des contrats avec des marchands, notamment de la mercerie, du linge, des toiles, et ce qui a fait un peu sa renommée, les premiers livres accessibles à une population plus grande.
Oui, c'est quand, intéressant.
Ah bah oui. Quand d'Ossolme s'en va, je ne sais pas trop où il est parti, je n'ai pas retrouvé sa trace, il est remplacé à Fontenay par un autre colporteur qui, lui, est du pays, Alexandre Malaga, un enfant trouvé aux hospices de Caen en 1816. Il se marie à Fresnay-le-Puceux et reste colporteur dans les années 1870. Avec lui, le métier disparaît à Fontenay.
Alors aussi un métier très très important, celui de sage-femme.
Des sages-femmes, depuis très très longtemps, dans les siècles précédents, il y en a toujours au moins une par paroisse, et donc maintenant une par commune. Fontenay-le-Marmion n'échappe pas à la règle. Nous avons une sage-femme qui est née au début du 19e, s'appelle Marie-Anne Cagne, qui est mariée à un monsieur Hervieux. Elle est sage-femme à Fontenay au moins de 1825 à 1869, année de son décès à Fontenay. Elle résidait à l'actuelle 4 rue du Val. Son époux, lui, était journalier. Mais eux étaient propriétaires de leur petite maison, ce qui est très rare à l'époque.
Comment elle est désignée, la sage-femme ? C'est l'église ? C'est la mairie ? C'est qui ?
La mairie, non. Au départ, ce sont les paroisses, l'église, qui prend les sages-femmes. Au début du 19e siècle, en théorie, Il y a des diplômes. L'État distribue des diplômes de sage-femme avec une véritable formation. Ce n'est pas facile de savoir si la nôtre, elle fait partie des diplômés ou si elle fait partie des sages-femmes qui apprennent de, pas de mère en fille, mais peut-être de copine en copain, enfin de copine en copine plutôt. Moi, je pense plutôt que celle de Fontenay, elle n'est pas diplômée. Elle fait partie du paysage depuis plus longtemps que l'existence des diplômes. Et par, évidemment, il faut avoir une confiance en la personne. Donc celle-ci reste jusqu'à temps qu'elle ne puisse plus exercer, jusqu'à son décès. D'ailleurs, après elle, il n'y a plus mention d'une sage-femme résidant dans la commune en tant que telle.
Alors François, peux-tu nous citer quelques personnalités qui auraient existé au XIXe siècle dans la commune ?
Oui, on a un philologue, un célèbre philologue, professeur de grec moderne, Émile Legrand, qui est né à Fontenay en 1841, donc en plein du XIXe siècle. Et ce qui est intéressant avec ce philologue, c'est qu'il édite un recueil de chansons populaires qu'il a recueillies à Fontenay-le-Marmion. Alors là, quand j'ai trouvé ça, j'étais super content, sauf que je n'arrive pas à trouver ce texte qui serait fort intéressant de savoir qu'est-ce que chantaient les gens à Fontenay pendant les veillées ou pendant qu'ils travaillaient. Alors si jamais une auditrice ou un auditeur ont des informations, nous sommes preneurs de celles-ci. Un autre cas intéressant, qui n'est pas forcément quelqu'un de célèbre, mais qui annonce les bouleversements du XXe siècle, c'est notre Adrien Gouget, qui est né en 1871 et qui habitait à Fontenay-le-Marmion. En 1891, il est parmi les inscrits de la célèbre course cycliste Paris-Brest-Paris.
Alors effectivement, un 19e siècle extrêmement charnière, extrêmement riche en changements politiques et économiques, évidemment avec l'arrivée de la révolution industrielle. Alors comment il va se terminer ce 19e siècle à Fontenay-le-Marmion ?
Le 19e siècle, la fin du 19e siècle, ça annonce vraiment le 20e. On est même un peu en retard par rapport à d'autres endroits. La révolution industrielle a eu lieu dans maintes et maintes contrées. Dans notre coin, c'est plutôt plus tardif. En 1892, la commune de Fontenay vote une subvention pour la construction de la ligne de tramway. Ça annonce les bouleversements, avec toutes les concessions minières qui sont accordées et, suivant les concessions, l'exploitation évidemment des mines. Mais on voit également la lenteur. Ce n'est qu'en 1900 que circuleront les premiers trains. La gare de Fontenay était située dans l'actuelle rue des Rosiers. On voit bien ce 19e siècle, il est spécial. Des fois, on dit qu'il est immobile. Des fois, on dit qu'il y a eu plein de bouleversements. C'est assez compliqué à s'y retrouver. Il y a quand même un bouleversement qui est clair, net et précis. C'est l'exode rural qui va engendrer une forte diminution de la population de Fontenay. Là, on va passer de 700 à 500 habitants, alors que toute la première moitié du 19e, on reste à peu près à 700. Entre 1850 et 1900, Fontenay va perdre près du quart de sa population. C'est vraiment l'exode rural. Les gens vont essayer de trouver un moyen d'existence dans les villes pour continuer à vivre. La population va cependant augmenter au début du XXe siècle sur la base du développement industriel avec l'exploitation de la mine suite aux concessions qui ont été accordées dans le secteur. Et là, il y aura un apport d'une population nouvelle pour la première fois dans l'histoire de Fontenay-le-Marmion. Mais ceci est une autre histoire. C'est pas si évident que ça.
Ce soir, il y a de la lumière.